Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Et voilà, c'est parti pour le magazine au Capi Service de ce jour. Quels sont les critères remplis pour être embauché dans une ONG internationale? Yves Gavan, expert en ressources humaines, est notre invité pour en parler. On me fait signe qu'il est déjà en ligne. Yves Gavan, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces sujets sur les conditions remplies pour être embauché dans une ONG internationale. Nous rappelons que vous êtes expert en ressources humaines et nous rappelons également le numéro de contact pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent participer à ce sujet. Appelez au 081 890 63 94. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui rêvent travailler dans des ONG internationales au terme de leurs études, mais comme ces structures développent de projets dans des temps bien délimités, ces ONG préfèrent recruter un personnel qui a déjà de l'expérience. En conséquence, la réception des candidatures et de tests de recrutement repose sur des critères rigoureux. Quels sont alors les critères remplis pour être embauché dans une ONG internationale? Yves Gavan va nous en parler au cours de cette émission. Voilà, Yves Gavan, est-ce qu'on peut d'abord comprendre ce qu'on attend par une ONG internationale?
Ok, merci beaucoup. Donc, avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de faire une petite analyse.
Oui.
Sur l'aspect organisationnel d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par une structure qui offre l'emploi?
Oui.
Généralement, nous avons deux types de structures qui sont censées donner du travail ou de l'emploi. Nous avons ce qu'on appelle les entreprises les structures de carrière, qui sont des entreprises qui généralement ne demandent pas beaucoup d'exigences lorsqu'on veut y accéder, tout simplement parce que ce sont des entreprises créées pour que les gens fassent leur carrière. L'exemple, on avait la GECAMINE, la SNCC et autres. On pouvait même recruter des gens déjà à l'université et ils avaient même des centres de formation pour les préparer par rapport à l'emploi.
Oui.
Mais deuxième type d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les entreprises d'appui au développement, dont les ONG internationales, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales internationales, qui sont des structures d'appui au gouvernement sous le plan du développement et qui développent des projets dans un temps bien délimité, avec des résultats qui sont déjà prévus à l'avance. C'est ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Donc ce sont ces structures-là qui sont beaucoup plus exigeantes en termes d'expérience parce qu'ils courent derrière un temps bien défini, ils ont des objectifs précis et ils veulent être performants sur le terrain parce qu'ils ont un devoir de redevabilité face aux bailleurs de fonds qui donnent des moyens. Donc voilà un peu ce que je peux dire en termes de l'ONG internationale.
Et voilà, maintenant s'il faut parler des critères à remplir, parce que bien souvent, on exige une certaine expérience, généralement les minimums c'est 3 ans d'expérience, alors professionnelle j'allais dire, alors pour les jeunes diplômés ça pose problème, ils n'ont pas encore d'expérience. Est-ce qu'il faut dire déjà que par rapport aux jeunes diplômés, c'est compliqué pour eux de rêver, travailler dans une ONG internationale lorsqu'on n'a pas d'expérience professionnelle?
C'est difficile, mais c'est pas impossible, parce que nous avons des jeunes aujourd'hui qui ont pu travailler ou qui sont en train de travailler. Ils ont quitté l'université, ils se retrouvent dans les ONG internationales. Mais ce qu'il faut relever, c'est que, comme je l'ai dit à l'introduction, en principe, ce sont des entreprises de carrière qui offrent beaucoup plus d'opportunités d'emploi pour des jeunes qui quittent les universités, les cas de l'ONATRA et autres à l'époque, parce que ces structures ne sont pas trop exigeantes en termes d'expérience. Et ils recrutent des jeunes qui viennent des universités, ils les forment eux-mêmes, ils avaient des budgets de formation, ils les forment. Et ce sont ces structures qui offrent plus de l'emploi et qui garantissent un peu une stabilité professionnelle par rapport aux jeunes. Mais quant aux entreprises d'émission, ils ne peuvent qu'être exigeantes. Mais malheureusement, il faut rappeler que l'appareil sociétal congolaise à un marché de l'emploi qui est plus tourné à 90% vers les entreprises de mission qui sont les ONG internationales, et ce qui rend, comme tu l'as dit, l'accès très difficile, surtout aux jeunes qui quittent l'université. Mais ce qu'il faut faire, je voulais partager aujourd'hui trois critères essentiels.
Oui.
Un jeune, par exemple, qui est encore étudiant ou qui veut travailler dans une ONG internationale doit remplir, parce que la question de l'expérience professionnelle, c'est bien beau de le dire, mais comme je l'ai dit très souvent, personne n'est né avec l'expérience, l'expérience n'est pas transmissible et l'expérience professionnelle n'est pas héréditaire. Donc l'expérience vient au fur et à mesure qu'on travaille. Mais lorsqu'on a, on n'a pas encore eu la chance de travailler, on n'a pas l'expérience, en ce moment-là, il faut développer ce qu'on appelle une certaine expertise par rapport à la question. Et pour développer cette expertise, je vais proposer trois critères essentiellement. Le premier critère, c'est qu'on doit maîtriser d'abord les secteurs dans lesquels vous voulez travailler dans une ONG internationale. Nous avons généralement deux catégories d'ONG internationales. Nous avons des ONG internationales qu'on appelle humanitaires ou qui traitent des questions des urgences, et nous avons des ONG internationales qui traitent purement des questions de développement durable. Donc déjà, la personne qui veut travailler dans une ONG internationale, il doit avoir la maîtrise des secteurs dans lesquels il veut travailler. Est-ce que c'est dans les secteurs humanitaires ou dans les secteurs de développement durable? Et dans tout cela, que ce soit humanitaire ou dans les questions de développement durable, la chose qui est plus importante, c'est que les ONG internationales ne sont pas des sociétés commerciales
oui.
qui vendent des produits ou qui font des affaires. Ce sont des structures qui traitent essentiellement de projets, c'est-à-dire ils font ce qu'on appelle du project management. Donc, vous devez avoir une connaissance assez poussée sur la question de projet, sur la question de management de projet, et aussi des suivis évaluation de projet, et voire même de gestion axée sur les résultats, ainsi de suite. Donc, premièrement, il faut maîtriser les secteurs. En maîtrisant l'élément important que les ONG internationales exploitent, ce sont de projets. Le deuxième critère, c'est avoir un profil. Ces projets, pour travailler dans le management de projets, il y a aussi des postes qui sont précis. Je donne un exemple. Nous avons le poste de chargé de programme ou gestionnaire de programme. Nous avons des postes, par exemple, de chargé de suivi et évaluation. Nous avons des postes, par exemple, d'assistant au programme. Donc, ce sont des postes spécifiques. Il y en a tant d'autres, des logisticiens, des directeurs des opérations. Ce sont des postes spécifiques qu'un jeune qui veut entrer dans une ONG internationale,
oui.
il doit déjà créer un profil par rapport à un poste, par rapport aux postes qui sont de plus en plus recherchés dans les ONG internationales. Et ici, par exemple, à notre niveau, nous avons lancé depuis le mois de février des séries de formations basées sur les profils. Et déjà le 13 avril, à Fatima, à Kinshasa, il y a une formation sur le gestionnaire de programme. Comment devenir un chargé de programme dans une ONG internationale. Et ça, ça permet déjà aussi à un jeune de pouvoir avoir un profil précis qu'il va présenter auprès d'une ONG internationale lorsqu'il veut travailler. Et le troisième critère, c'est de bien maîtriser les exigences demandées par des ONG internationales. Parce que, comme je l'ai dit très souvent, ce n'est pas le nombre de demandes d'emploi que tu envoies dans une entreprise qui te qualifie à un poste, mais c'est généralement les exigences, comment tu as maîtrisé les exigences de poste, liées au poste, et aussi la manière dont tu présentes ta candidature. Et là, parmi ces exigences, par exemple, c'est en matière de CV. Vous trouverez, par exemple, aux Nations Unies, on a le système qu'on appelle le P11. Donc, si vous voulez postuler, vous devez avoir au moins une connaissance comment remplir le P11, parce que là, on ne dépose pas des CV comme ça. Mais les autres structures aussi, ils ont des exigences aujourd'hui en matière de CV. On ne peut pas faire un CV aujourd'hui qu'on veut envoyer dans une ONG internationale avec le nom des parents, des territoires d'origine, des chefferies, ainsi de suite. Il faut avoir un CV actualisé avec des rubriques assez spécifiques, avec des informations en lien avec avec l'offre. Mais aussi en matière de l'élaboration de la lettre de motivation,
oui.
aujourd'hui qui est différente d'une lettre de demande d'emploi. Et il faut savoir quelles sont les informations nécessaires qu'on doit mettre dans une lettre de motivation, parce que cette lettre de motivation doit confirmer effectivement que vous êtes le candidat idéal et de démontrer que vous pouvez être utile et vous maîtrisez ce dont ces structures ont besoin pour pouvoir travailler. Voilà un peu les trois critères rapidement qu'un jeune doit remplir si vraiment il rêve travailler dans une ONG internationale.
Voilà, on récapitule rapidement les trois critères dont il faut avoir une certaine maîtrise du secteur pour lequel on veut travailler, et avoir également le profil qu'il faut, et également savoir comment répondre aux exigences des saisons internationales. Ingafan, on a beaucoup de réactions sur des réactions qui nous sont parvenues sur notre page Facebook. J'espère qu'on pourra lire une bonne partie de ces réactions. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont déjà réagi sur la page Facebook au Capi Service par rapport à ces sujets, sur quels sont les critères à remplir pour être embauché dans une ONG internationale. Nous avons déjà aussi des auditeurs en ligne. Il y a Omar Kigallo qui nous appelle de Kinshasa et Ismaël Mompoy qui est à Lubumbashi. Nous rappelons le numéro de contact pour toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix et qui veulent intervenir par rapport à ces sujets sur les critères à remplir pour être embauché dans une ONG internationale. Le numéro d'appel, c'est les 081 890 63 94.
Découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Omar Kigallo nous appelle de Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour, Marcel.
Omar, vous voulez bien vous déplacer un tout petit peu, hein, parce que là déjà j'ai comme l'impression que la communication n'est pas très très claire. Essayez de vous déplacer et on pourra bien suivre votre question.
Ça va, Marcel?
Je pense bien, ça va. Allez-y.
Allô?
Bah, allez-y, Omar, allez-y.
Je me disais bonjour et oui, ma première question est celle de savoir quels sont les niveaux qu'on doit mentionner.
Non, Omar, ça ne va pas encore. Omar, ça ne va pas encore. Essayez de vous déplacer. On va vous retrouver au cours de l'émission. Essayez de vous déplacer. J'espère que la réalisation me fera signe lorsque ça sera bon par rapport à votre ligne. Et pour l'instant, on passe à Ismaël Mopoy qui nous appelle de Lubumbashi. Ismaël Mopoy, bonjour.
Bonjour Marcel. Bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Ismaël.
Ok, ma première préoccupation, j'ai construit d'abord, je me souviens d'une ONG,
oui.
À Kimou, j'espère, sur un hôpital Saint-François. Avant d'installer cet hôpital, on avait eu d'abord, on avait implanté d'abord un débit, c'est-à-dire, on avait sélectionné une catégorie de serres. Ils avaient fait d'abord la gynécologie, ils s'étaient spécialisés en Italie et en Europe pour avoir d'abord l'accès à leur propre structure où ils devaient ériger. Maintenant, la question que je devais maintenant poser à l'invité est celle-ci. Oui. Pour avoir une ONGD à un endroit fixe, qu'est-ce qu'on peut faire? N'est pas aussi faire d'abord les examens, le type des milieux pour qu'on puisse d'abord sélectionner les gens. Par exemple, quand on donne l'offre, on dit, par exemple, l'anglais, c'était l'atout. Et pourtant, nous sommes dans un pays où nous parlons français. Tout cela, est-ce que ce n'est pas l'entrave pour ceux qui peuvent d'abord travailler au titre d'exemple pour l'hôpital que je vous ai cité? Je me souviens qu'à l'aider les autres, par exemple pour la gestion, déjà un gestionnaire, pour la gynécologie, il avait été pour l'antisérie, ils avaient déjà une personne. Est-ce que ce n'est pas aussi même pourvu que déjà des ONGD pour d'abord le type de milieu pourvu qu'ils sélectionnent d'abord les gens en avance, en vue qu'ils ne puissent pas avoir aussi de visibilité, parce que ça cause plus de problèmes. Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Moupo depuis le Bumbashi Akindu, Choukrani Yuma est en ligne. Bonjour Choukrani. Choukrani n'est plus en ligne, on va le retrouver j'espère également. Et on retrouve notre invité Yves Ngavan, expert en ressources humaines avec qui nous parlons des critères remplis pour être embauché dans une ONG internationale. Yves Ngavan, vous avez suivi Ismaël Mopoy qui a d'abord parlé, en fait lui il dit que pour certaines ONG il aurait aimé qu'il y ait d'abord des examens, c'est qu'il appelle examen préliminaire hein, pour y aller par étapes pour savoir sélectionner les meilleurs meilleur candidat. Et puis il dit également, il fustige également le fait que d'après lui, il y a pour certains ONG qui font de offres d'emploi, mais qui sembleraient ont déjà des personnes bien identifiées déjà pour occuper ces postes. Et puis il a également parlé de ce qu'il trouve un peu, ça complique également pour le candidat lorsqu'on exige, il faut parler l'anglais. Hein, c'est un atout pour pouvoir occuper ce poste. Docteur Yves Ngavan.
Oui, merci beaucoup. Je crois que par rapport à ces questions, j'aimerais répondre comme suit. D'abord, pour dire que les gens, quand ils lancent les offres, on a déjà pris des gens en amour. Ça, c'est moi, je n'aime pas prêter des intentions, des procès d'intention. En tant que spécialiste et aussi recruteur, donc je pense que je dois rester dans la limite de l'expertise pour dire que le recrutement est un processus bien connu qui permet à une organisation de sélectionner des personnes dont elle a besoin pour accomplir un travail précis. Donc je ne sais pas entrer dans cette guerre. Mais là où c'est plus intéressant dans sa question, c'est là où il parle plus de l'anglais, qui fait partie aujourd'hui des exigences, comme je l'ai dit, c'est par le troisième critère, les exigences liées au poste. Il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, malheureusement pour nous, notre appareil sociétal de l'emploi, qui devait faire plus la promotion de sociétés de carrière, comme on avait créé à l'époque des Gécamines et autres, vous vous rappellerez que l'État aujourd'hui ne crée plus assez d'entreprises comme nous avons la série de Onatra, des SNCC. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus les ONG internationales qui offrent plus d'offres dans notre marché de l'emploi et avec leurs exigences. Donc aujourd'hui, si on veut accéder à ces structures, je pense que l'anglais aujourd'hui, c'est une langue qui monte en puissance avec le français. Ça essaie de concurrencer le français.
Oui.
Donc je ne vois pas quelqu'un qui veut vraiment du travail ne pas apprendre l'anglais aujourd'hui, ne pas apprendre l'informatique, qui sont aujourd'hui des exigences professionnelles d'ailleurs. Donc je vais encourager notre ami à apprendre l'anglais et pourquoi pas aussi l'informatique au besoin pour répondre aux exigences du bailleur. Donc, et préparer les gens en amont, je me dis, ce n'est pas le travail d'une ONG internationale de pouvoir préparer des gens qui doivent travailler. Comme on a dit, ils viennent avec des projets qui tiennent compte de temps bien précis avec des résultats déjà programmés en amont. Donc, ils ont plus besoin de gens qui ont déjà une certaine expérience pour ne pas tomber dans les pièges, de ne pas utiliser tous les financements ou de ne pas attendre les résultats. C'est au niveau des candidats, d'abord, de se préparer par rapport à ces gens de postes, comme je l'ai dit. Nous avons des formations, d'ailleurs, axées sur des profils qui sont organisés. J'ai donné l'exemple de la formation du 13 avril à Fatima, qu'un candidat peut déjà s'inscrire pour suivre,
oui.
Mais également aussi, on peut rentrer même jusqu'au système éducatif congolais, qui doit aujourd'hui essayer d'intégrer certains aspects liés au travail des ONG internationales, parce que ce sont eux qui offrent plus des offres sur notre marché. Pourquoi pas aussi intégrer certaines exigences de ces ONG dans les cursus académiques pour les étudiants, par exemple, de deuxième licence, pour leur donner quand même déjà une vue par rapport au travail qui s'effectue dans l'ONG internationale.
Voilà, Docteur Ngavan, je le disais en début de cette émission, qu'on a beaucoup, beaucoup de réactions par rapport à ce sujet hein, sur notre page Facebook. On va essayer de découvrir quelques-unes de ces réactions. Je lis d'abord cette réaction de Christa Kakumo Kinga, qui écrit ceci. Les ONG doivent changer leur système de recrutement, de dire avant de recruter, il faut avoir au moins l'expérience dans ce domaine. Quand on n'a pas encore commencé à travailler, on n'a pas l'expérience. Donc les ONG, pour lui, doivent changer un peu ce système, revoir un peu cette façon de travailler pour les offres d'emploi. Il y a également Timothée Mukini qui écrit de Kananga. Le problème de l'expérience devient caillou dans les chaussures de gens diplômés dans notre pays. Nous savons plus où acquérir cette expérience car partout c'est la condition sine qua non pour être embauché. Nous préférons travailler dans des ONG car toutes les conditions salariales sont respectées, mais c'est l'expérience qui pose problème. Il y a également Francis Moutilla qui écrit ceci. La condition de l'expérience est une épine dorsale qui parfois constitue un facteur de corruption avant d'être embauché. Donc cet élément disqualifie le nouveau diplôme. diplômés. Et Ezekiel Kakoulé qui écrit, c'est pour aider les gens diplômés, les ONG devraient recruter une personne expérimentée et aussi un jeune diplômé pour qu'il y ait aussi de l'expérience. Docteur Yves Gavane, comment vous réagissez par rapport à toutes ces réactions?
Oui, Marcel, vous savez, c'est une question cruciale. Vous sentez que tout le monde est revenu sur la question de l'expérience.
Exactement, oui.
Il y a quelques mois, quand j'ai séjourné encore à Kinshasa, nous avons réfléchi et nous avons même passé quelques émissions où nous avons pensé aujourd'hui, pour résoudre la question de l'expérience professionnelle en RDC, il faudra mettre en place une sorte de passerelle qui doit réunir les autorités académiques qui forment les étudiants, les sociétés où ces étudiants vont chercher du travail, notamment les ONG internationales, mais aussi des experts, pour qu'on arrive à discuter un peu, que les ONG et les entreprises disent au système éducatif qu'est-ce que donc le système éducatif d'abord demande à ces ONG, pourquoi vous exigez tout le temps à nos étudiants l'expérience professionnelle? Qu'est-ce que vous reprochez à la formation que nous donnons à ces étudiants? Les ONG et les entreprises diront au système éducatif, voilà, vos étudiants ont beaucoup de théories, vos étudiants n'arrivent pas à nous aider à atteindre les objectifs, et alors les experts vont dire, mais qu'est-ce qu'il faudra faire dans le cadre référentiel provisionnel des emplois? Qu'est-ce qu'on peut faire en ces moments-là pour que les étudiants qui sortent de nos universités puissent avoir au moins une expertise compatible à vos exigences? C'est en ce moment-là qu'on trouvera un consensus, un contenu national. En ce qui concerne le système éducatif, c'est-à-dire on va prendre certaines exigences de ces ONG, on va intégrer ça dans le système éducatif pour que quand ces jeunes-là quittent le système éducatif, on ne va plus exiger l'expérience professionnelle parce que déjà ils remplissent un certain nombre d'exigences de ces ONG en amont. Et à ce moment-là qu'on aura un système éducatif non seulement qui est là pour délivrer des diplômes et jeter les gens dans la rue sans savoir ce qu'ils vont devenir et chaque année on continue à les former sans pouvoir les utiliser, mais aussi que les ONG internationales et autres qui ne trouvent pas refuge aujourd'hui sous cette mention expérience professionnelle pour refuser tout le monde déjà, mettre déjà une grande barrière pour empêcher les jeunes d'accéder. En ce moment-là, cette passerelle nous permettra bien sûr de trouver des mécanismes pour donner la chance aux jeunes, parce que moi je vois mal aujourd'hui quelqu'un qui passe 5 ans à l'université, il fait des études, il se sacrifie en termes d'argent, l'énergie et aussi ses capacités, mais à la fin il n'arrive pas à décocher un travail parce qu'il y a certaines exigences qu'on n'arrive pas à y répondre. Mais aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à mettre en place cette passerelle pour discuter clairement sur la question de l'expérience professionnelle, c'est à ce moment-là que nous proposons d'autres alternatives dont j'ai parlé ici. En ce moment-là, au lieu d'attendre, parce que cette passerelle, nous avons voulu organiser un colloque national pour discuter là-dessus, mais nous sommes en processus. Mais oui. En ce moment-là, comme le jeune qui finit, il doit travailler, au lieu d'attendre que cette passerelle soit mise en place, c'est à ce moment-là que j'ai proposé les 3 critères. Choisis d'abord, maîtrise les secteurs dans lesquels tu veux travailler. Essaye de créer un profil par rapport à cela et aussi essayer de maîtriser les exigences. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est très facile. Je connais des jeunes qui ont fait cela, que nous avons encadré et aujourd'hui, ils sont dans les ONG internationales en suivant ces mécanismes. Donc, c'est plus facile aujourd'hui aussi à un jeune de pouvoir travailler dans une ONG internationale s'il le désire fermement.
Voilà, on va poursuivre avec vous, Yves Gavane, avec d'autres réactions. Il y a des auditeurs qui sont en ligne. Rossi Mayobo nous appelle de Bandundouville. Romilis Tabounia. Rossi Mayobo, bonjour.
Et bonjour, Marcel. Bonjour, Alimi.
On vous écoute, Rossi Mayobo.
Oui, moi, j'aimerais poser une question à l'invité, qu'il nous dise un peu comment ces ONG internationales se basent les plus souvent à Kinshasa. Tant que nous sommes en province, nous sommes délaissés par rapport à ces offres d'emploi. Ils viennent de dire qu'il y a certains jeunes qui ont suivi la formation pour mieux être embauchés. Alors nous autres, quand est-ce que nous verrons un responsable de l'ONG internationale venir dans des provinces, nous apprendre aussi, soit faire tout ce qu'il faut pour qu'on soit embauché. En dehors de ça, s'il faut travailler dans ces ONG, vous suivrez toutefois, non, vous irez travailler à Goma, ou soit à Bukavu, ou soit à Ituri, dans des histoires comme ça. Ou si ce n'est pas à l'Est, c'est à Kinshasa. Alors, hors d'autres provinces, nous sommes quand même délaissés. Il peut m'expliquer quel est le choix qui est fait par rapport à ces milliers de travaux.
Voilà aussi, Mayobo, par rapport au fait que les ONG se retrouvent, comme vous le dites souvent, dans la capitale ou dans d'autres grands centres urbains, ça c'est vraiment c'est pas l'invité qui a même de répondre à cela. Mais par rapport aux formations, lui, l'expert en ressources humaines, il pourra bien sûr vous dire comment vous, qui êtes à l'intérieur du pays, pouvez également profiter de ces formations qui ne sont pas organisées par des ONG, mais par des structures bien appropriées. Donc, Yves Gaval pourra répondre par rapport à cela. Remilus, vous êtes à Bounia. Bonjour, Romulus.
Ah, bonjour, monsieur. Bonjour.
On vous écoute.
J'aimerais juste intervenir sur le système qu'on a aujourd'hui. Dans des ONG, ils ont un système là. Vaut mieux travailler avec un local que vous connaissez pour ne pas travailler avec un ange que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qui tue aujourd'hui. Tous les jeunes sont en train de souffrir à cause de ça. Merci.
Mais soyez un peu plus explicite. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Romulus de Pibounia? Vous parlez du léopard et de l'ange. Allez, essayez un peu d'être plus explicite, plus clair, plus concret dans ce que vous
voulez. Vaut mieux travailler avec un léopard. Vaut mieux travailler avec son frère que vous connaissez pour ne pas travailler avec un intellectuel que vous ne connaissez pas. Il risque de vous trahir et peut-être vous pouvez voler dans l'entreprise, vous volez de l'argent, il vous laisse, il ne peut pas trahir. C'est pourquoi il va seulement travailler avec ses frères à côté. Même si vous êtes intelligent, c'est très difficile d'avoir un emploi.
Voilà, merci Romulus depuis Bounia. Docteur Ngavan, qu'est-ce que vous dites à Roussi qui a parlé des formations, hein? Il semblerait que vous parlez des formations, mais ils n'en profitent pas à l'intérieur du pays de ces formations.
Oui, notre structure s'appelle DRC Business School, donc DRC c'est RDC, abrégé en anglais. Nous avons la vocation d'aller sur toute l'étendue de la République, mais nous allons aller progressivement pour donner de formation. D'ailleurs, au mois de mai, nous aurons un forum, des forums pour l'entrepreneuriat et l'emploi qui aura lieu à Kisangani. Donc déjà, c'est pour montrer que nous allons aussi vers les provinces. Mais pour dire que les ONG restent soit à l'Est, soit à Kinshasa, ça dépend, comme tu l'as dit, de la vision de chaque ONG et aussi des types de projets qu'ils veulent exécuter. Donc là, je ne sais pas vraiment entrer dedans. Donc notre ami, il peut toujours garder contact avec nous. Je pense que peut-être très prochainement, on pourra avoir des sessions de formation sur Bandundu parce que nous sommes en train d'aller progressivement dans toute la République. Mais notre ami de Bounia, qui parle de l'ange qu'on connaît, les diables...
Tout à fait, les ONG à nos confiances à des personnes.
L'anecdote est un peu difficile. Ouais. Mais si j'essaye de comprendre, c'est que Marcel, il faut savoir que la question liée aux ONG internationales, non seulement que ça intéresse plus d'une personne, mais c'est une question aussi qui reste en suspens parce que la plupart des gens ils ne savent pas exactement qu'est-ce que font les ONG internationales et qu'est-ce qu'il faut faire pour y accéder. Et c'est ça la grande difficulté. Et vous trouverez aussi même des gens qui quittent l'université ont la même difficulté parce que ce sont des notions qui ne sont pas reprises dans notre système éducatif, alors que ce sont ces structures qui offrent plus de l'emploi chez nous. Et il y a maintenant un dilemme, il y a un paradoxe. Donc, on forme des gens sur autre chose, mais quand ils doivent quitter l'université pour entrer dans le marché de l'emploi, ils voient des offres venant des ONG internationales pour lesquelles ils n'ont pas été préparés à cela. Et ils se rendent compte que ces ONG exigent plus d'expérience professionnelle alors qu'elles viennent de l'université. C'est là où il y a les problèmes. Et pour traiter ces problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question sérieuse qu'on doit prendre à bras le corps au niveau du système éducatif déjà. Oui. On doit réfléchir avec ces ONG, j'ai parlé d'une passerelle, mais aussi aujourd'hui l'État doit faire un effort pour pouvoir rentrer dans les systèmes de création d'entreprises, des carrières comme nous avons des GECAMINE, comme nous avons les autres, pour pouvoir donner la chance aux jeunes qui quittent l'université d'accéder même à d'autres formations parce que les GECAMINE et autres avaient des centres de formation, ils avaient même des bourses d'études qu'ils donnaient aux jeunes qui terminaient pour aller à l'étranger et revenir travailler. Mais une ONG internationale n'a pas un budget de formation pour les apprenants. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont des budgets plus limités dans le projet et en ce moment-là, ils ont plus besoin de quelqu'un qui est déjà expérimenté pour les aider à atteindre rapidement les résultats. Donc c'est vraiment une question aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment, ça nécessite vraiment des échanges à trois niveaux entre les entreprises, le système éducatif et voire même les experts
pour qu'on arrive à proposer à la République, pourquoi pas au ministère de l'Emploi, des stratégies pour arriver à résoudre cette question et de donner la chance à nos jeunes qui rêvent toujours de travailler dans ces structures, d'accéder facilement.
Et vraiment, c'est comme vous le dites, hein, il faut vraiment cette passerelle là, pour aider ces jeunes, parce que toutes les réactions que j'ai devant moi ici, sous mes yeux, reviennent sur l'expérience professionnelle. Donc merci à toutes ces personnes qui ont réagi sur la page Facebook Okapi Service. On va encore lire peut-être cette réaction-ci. Je pense que ces organisations non gouvernementales devraient principalement tenir compte de la compétence et non l'expérience exigée de plusieurs années qui met en écart les jeunes diplômés, d'autant plus que l'expérience s'acquiert au fur et à mesure que l'on travaille. Voilà encore ça, une réaction de Bénédicte Amigo depuis Bukavu, tous sur l'expérience professionnelle. On va accueillir deux derniers auditeurs qui sont en ligne, Albert Mwananga qui est à Kananga et Patrick Ouonda qui est à Kolwezi. Albert Mwananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui. Merci beaucoup. J'ai un peu de questions à poser à notre invité. La première, c'est de savoir. La fois passée, nous avions entendu l'expert aussi disait pour l'expérience professionnelle, mais à ce concerne l'expérience professionnelle aussi, est-ce qu'avec les stages de complément, solliciter un stage de complément, est-ce que ça peut contribuer, bien, ça peut faire l'objet de l'expérience professionnelle, comment? Est-ce que ça peut aller dans ce sens? Aussi, j'aimerais demander aussi à l'invité de pouvoir un peu nous donner les modèles un peu des CV, parce que nous avons du mal à comprendre les modèles des CV, et aussi nous avons beaucoup de modèles des CV qui ne reflètent pas du tout peut-être ce qui est vraiment demandé. C'est ça un peu ma préoccupation. Merci beaucoup.
Merci Albert Mwananga pour le modèle de CV. Ça, on pourra y revenir prochainement dans une émission beaucoup plus élaborée par rapport au CV. Mais pour la première question sur les stages professionnels, les stages de complément, comme vous appelez, l'invité pourra bien vous répondre. Merci Albert Mwananga d'avoir appelé du Kananga. Kolwezi, Patrick Wound est en ligne. Bonjour Patrick.
Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute Patrick.
Oui, ma question est celle de savoir, je voulais savoir la particularité du P11 par rapport aux exigences demandées par les entreprises de carrière.
D'accord. Merci Patrick Wanda depuis Kolwezi. Yves Ngavan, qu'est-ce que vous dites d'abord à Albert Mwananga qui a parlé du stage? Pourquoi on ne peut pas aussi tenir compte du stage lorsqu'on parle de l'expérience professionnelle?
Ah oui, généralement nous avons deux types de stages. Donc en milieu professionnel, on a ce qu'on appelle le stage académique et les stages d'immersion professionnelle ou les stages professionnels. En principe, les stages académiques n'offrent pas une expérience professionnelle ou un détail professionnel, c'est juste une conciliation entre la théorie et la pratique. Mais les stages d'immersion professionnelle, qui est bien fait dans un secteur, dans un temps bien délimité, dans un poste précis, ça peut constituer effectivement un détail majeur dans l'acquisition de l'expérience professionnelle. Donc, quelqu'un qui a fait une année ou six mois dans un secteur précis en exerçant un métier, il peut déjà ressortir avec une certaine expérience professionnelle qui peut revendre. Donc, la question de l'expérience professionnelle, comme je l'ai dit Marcel tout à l'heure, nécessite une réflexion, parce que moi je veux, et aussi nous avons déjà des arguments en tant qu'experts, on veut aujourd'hui qu'on donne un contenu dans cette expérience, parce que tout le monde dit il faut avoir 5 ans d'expérience, mais quel est le contenu qu'on veut dans cette expérience professionnelle? C'est à ce moment-là que la passerelle va répondre à cette question du contenu de l'expérience professionnelle, parce qu'il ne faut pas seulement brandir les chiffres, 5 ans, 10 ans, mais derrière ces 10 ans, derrière ces 5 ans, qu'est-ce qu'on veut effectivement? Mais par rapport à la question de modèle de CV, bon, je peux juste lui dire que notre livre que nous avons écrit, « Comment trouver l'emploi de son choix, boussole du succès professionnel », qui est déjà en vente, donc parle déjà, présente même certains modèles de CV pratiques et adaptés au milieu congolais. Donc, ils peuvent toujours garder contact pour avoir ces livres et ça sera vraiment très bénéfique.
Vous allez rappeler le numéro de contact donc avant de clôturer avec ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous dites au dernier intervenant qui a parlé de la particularité de PER 11, ces formulaires à remplir lorsqu'on veut... C'est quoi la particularité?
Oui, la première particularité, c'est que le P11, c'est une innovation ou une particularité des Nations Unies. Donc, c'est un formulaire, c'est un modèle de CV, mais spécifique aux Nations Unies, parce que lorsque tu veux entrer aux Nations Unies, ils ont besoin de certaines informations beaucoup plus approfondies qu'ils veulent avoir du candidat. C'est la raison pour laquelle, pour harmoniser le système de recrutement au sein des Nations Unies, ils appliquent tous le même modèle qu'on appelle le P11 et qui permet de recueillir un certain nombre d'informations qui seront analysées, traitées et aussi jusqu'à la sélection des candidats. Donc, vous trouverez certaines informations qui se retrouvent dans les CV ordinaires, dans les P11, mais avec une particularité, c'est que c'est les Nations Unies à ces informations qu'ils recherchent, qui ne sont pas forcément les mêmes informations que Tenke Fungurume ou encore une autre structure pourra rechercher. Donc, ces questions, à chaque fois que vous voulez postuler, c'est un modèle qui est téléchargeable, qui se retrouve dans les bureaux des Nations Unies. Vous pouvez y accéder, c'est en anglais et en français. Donc, vous allez lire attentivement. Donc, bref, c'est comme un CV.
Oui.
Et cette fois-là, c'est un CV adapté au système des Nations Unies si vous voulez si vous postulez, bien sûr, dans ce système.
Alors, docteur Yves Naval, vous voulez bien rappeler le numéro de contact pour les personnes qui aimeraient bien en savoir davantage par rapport à tout ce dont on a dit sur le critère rempli pour être embauché dans une ONG internationale, également par rapport à cette formation qui va être organisée la semaine prochaine, si j'ai bien retenu, le 13 avril, et comment les gens peuvent faire pour y participer, le jeune.
Oui, nous invitons massivement tous les jeunes qui sont à Kinshasa de participer à cette formation basée sur le profil, avec comme thème devenir un chargé de programme dans une ONG internationale. Ça commence le 13 avril, ça va durer 5 jours, donc les inscriptions se prennent déjà à Notre-Dame Fatima, à la Gombe. Donc ils peuvent passer au secrétariat de Notre-Dame Fatima pour prendre des inscriptions. Et ensuite, nous allons organiser d'autres formations en suivi, évaluation et autres. Donc on a vraiment un agenda très chargé. En ce qui concerne le numéro de contact, c'est les 081 166 21 26 ou encore mon adresse email, c'est yvesdanilo@yahoo.fr. Ce sont nos contacts, donc pour ceux-là qui veulent me contacter directement, mais pour ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent directement aller à Notre-Dame Fatima. Et nous profitons aussi pour déjà annoncer que moi demain, nous serons à Kisangani du 25 au 28 mai pour un grand forum sur l'entrepreneuriat de l'emploi de jeunes qui aura lieu à l'hôtel Kisangani. Donc le jeune de Kisangani se prépare déjà parce que nous allons, dans notre programme cette année, de parcourir plusieurs programmes pour essayer un peu de discuter sur la question de l'emploi.
Merci beaucoup Dr. Yves Ngava. Nous rappelons le numéro de contact, c'est le 081-166-21-26. 081-166-21-26. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission pour commenter ces sujets sur les critères à remplir pour être embauché dans une ONG internationale. Nous rappelons que vous êtes expert en ressources humaines. Au revoir.
Au revoir.